La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bonjour à tous. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Jacques, au chapitre 3, versets 13 à 18. Jacques, au chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses bonnes œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen.
Bonjour à tous. Heureux de passer ce sabbat avec vous et de passer ce moment de relation avec Dieu, avec notre Sauveur, avec tout ce qu'il nous a donné. Alors, pour certains, c'est une grande libération. Je pense particulièrement à ceux qui ont fini le bac. Ce sera une pleine libération quand ils auront les résultats. Et ce sera une entière libération quand ceux qui seront obligés de passer le rattrapage sera fait. Mais on est de tout cœur avec vous. Moi, pour moi, c'est fini, les deux miens sont passés, je n'ai plus de stress. Je pense donc à tous les parents qui sont dans le cas. Ce n'est pas simple. Mais ce n'est pas forcément non plus la fin de toute une vie, le bac, bien au contraire, la vie continue. Et la vie est toujours aspirée par quelque chose de plus grand. Elle devrait être aspirée, en tous les cas, par quelque chose de plus grand. Elle est inspirée par ce qui est de cette parole de Dieu qui nous donne cet élan, cette force. Elle est d'autant plus inspirée que notre vue, notre vision, notre objectif est avant tout d'accueillir le Christ à son retour, lorsqu'il va venir pour nous prendre avec lui, vivre enfin une joie d'adoration, un esprit relationnel avec lui, entier, face à face. Nous attendons ça avec impatience, j'espère en tous les cas pour chacun d'entre nous. Nous attendons ça avec impatience parce que nous souhaitons vivre pleinement cette harmonie avec lui. Et quand on voit les différentes possibilités que nous aurons avec lui, le lieu qui nous prépare, waouh ! Ça, c'est quelque chose. C'est en tous les cas ce qui nous est décrit dans Apocalypse. Et je vais vous inviter à prendre Apocalypse au chapitre 7. Parce que dans ce texte-là, dans Apocalypse au chapitre 7, il y a particulièrement ce moment où il est annoncé que nous allons être devant le Christ. Dans ce chapitre 7, il y a donc quatre anges ici qui se tenaient debout et qui avaient l'objectif d'arrêter les vents jusqu'à ce que tout soit accompli. Un autre ange tenait le sceau de Dieu. « Ne faites pas de mal à la terre », nous dit-il au verset 3. Pourquoi ? Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ce sceau qui va nous permettre d'être ceux qui vont être avec le Christ. Ceux qui vont se présenter devant le Christ pur. Aux yeux de Dieu. Pas forcément nôtre. Et Jean continue dans sa description, il dit « J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués, ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. » 144 000. Et le texte continue avec tout un descriptif des 12 tribus d'Israël. 12 000 de la tribu de Juda, marqués du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Aser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués du sceau. 12 000. 12 tribus qui posséderont 12 000 personnes qui ont ce sceau. Ce matin, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la liste des tribus qui sont présentées dans l'Apocalypse. Ce serait trop long de prendre tout le chapitre 7 et de l'expliquer en long, en large et en travers, donc ce matin, je vais me focaliser sur la liste de ces 12 tribus. Et donc, si vous lisez dans votre Bible, vous avez énuméré ces 12 tribus. Mais ce n'est pas la bonne liste. Pour ceux qui se souviennent des 12 tribus d'Israël, nés de Jacob, ce n'est pas la même liste. Lorsque vous prenez Genèse, soit à différentes naissances, soit même, et c'est ce qui va nous intéresser aussi ce matin, c'est au Genèse chapitre 49, vous avez la bénédiction des enfants d'Israël. La bénédiction des enfants de Jacob. Et dans ce chapitre 49, verset 1, Jacob convoqua ses fils. Le texte est assez fort, hein? Le pater vous appelle, on vient. Le père demande ses enfants, ils viennent, on convoque. Ça demande aucune discussion. Bon, ça c'est un petit côté personnel. Je tiens, en tant que père. Mais bon, ça s'est passé. Alors, reprenons à notre texte de base. Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël, votre père. C'est une révélation, ça, une bénédiction. Ce n'est pas la première fois que le patriarche bénit ses enfants. La présentation d'un enfant que l'on fait à la naissance, c'est une présentation, une bénédiction. À l'époque, c'était traditionnel de faire une bénédiction sur ses enfants, surtout quand on savait qu'on allait bientôt partir. Je ne vais pas reprendre le chapitre 49, je vous invite à lire les bénédictions des uns et des autres. Je reprends simplement les noms qui sont présentés pour nous remémorer les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph, Benjamin. Un nom manque dans Apocalypse 7. Dan. Dan n'est pas dans la liste de l'Apocalypse et pourtant c'est un fils direct de Jacob. Dan n'apparaît pas et est remplacé par Manassé. Manassé, fils de Joseph. Dans Apocalypse 7, la tribu de Joseph est représentée deux fois, par Joseph lui-même et par son fils Manassé, qui remplace Dan. Pourquoi ? Il y a deux choses que l'on peut voir dans ce nom qui disparaît. Cette tribu a disparu de la liste. Elle n'existe plus dans l'Apocalypse. On va essayer de voir un peu justement cette tribu-là. Le nom de Dan d'abord, ce sera une première orientation. Le nom de Dan signifie celui qui juge. Et quand on dit ça, on dit quoi ? Pas grand-chose et beaucoup à la fois. Le côté positif, celui qui juge la justice dans un tribunal et qu'il rend une justice juste. Puis il y a l'autre. Celui qui n'arrête pas de juger l'autre, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tous les petits côtés de travers qu'il voit chez l'autre. Il juge sur son comportement, il juge sur sa façon de faire les choses. Il juge sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien à ses yeux. Le texte ne nous dit pas dans quel sens Dan pouvait juger. On a quelques hommes importants qui viennent de la tribu de Dan. Des gens de Dieu et des gens de Dieu. Et dans les deux cas, avec quelques petits bémols, je prends l'exemple Samson. Samson est de la tribu de Dan. Samson est celui, l'homme, le super-héros, le fort. Celui qui est consacré dès le ventre de sa mère par Dieu. Celui qui doit délivrer Israël. Celui qui fait partie d'un des juges en Israël. Est-ce que c'est dans ce sens-là ? Celui qui... a eu une vie chaotique. L'homme fort, il l'a prouvé, tout ce qu'il a tué, les lions, avec une mâchoire d'âne, tous les philistins qu'il a mis en pièces, du sang. S'est marié avec une philistine. Et a eu ce petit côté machiavélique. Où il a dit à sa femme, « Hein, tu veux savoir d'où vient ma force ?» Devine. Peut-être que tu trouveras. Peut-être que tu ne trouveras pas. Ce petit jeu très... passez-moi l'expression pervers. De faire croire qu'il va avoir quelque chose, tout en mettant des murs pour ne pas le faire jusqu'au jour. Où il va lui-même craquer. Et puis, ça peut être aussi la deuxième chose sur Dan. On a parlé du nom qu'il signifiait, maintenant on va parler de la bénédiction qu'il reçoit de Jacob. Alors vous savez, moi je trouve ça extraordinaire de pouvoir bénir ses enfants pour leur futur. De les prendre comme ça, de dire, voilà, les enfants, on va. Je voudrais vous bénir avant que je parte. C'est mes derniers jours, mes dernières heures, et je voudrais vous donner le meilleur. Mais je suis en train de me dire, moi, en tant que père, je pourrais donner que le bon comme bénédiction. J'aimerais exprimer à Dieu tout ce qui pourrait être positif pour mes enfants, pour une bénédiction extraordinaire. Dans le contexte de Jacob, n'oubliez pas, c'est une bénédiction, ce que l'on appelle une bénédiction prophétique. Une révélation. Et là, je me serais fait tout petit en tant qu'enfant, en tant que fils, sur certaines bénédictions. Car Jacob ne mâche pas ses mots. Et je prendrai ce matin juste Dan qui nous intéresse. Versets 16 à 18. Dan jugera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval pour que le cavalier en tombe à la renverse. Et là, d'un seul coup, et c'est la seule fois dans toutes les bénédictions de ses 12 enfants, Jacob se sent obligé d'exprimer une requête à Dieu. Je compte sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Il est toujours terrible de voir comment pourrait se passer l'avenir d'une personne quand elle prend un mauvais chemin. Et je peux comprendre Jacob qui a besoin à un moment donné, devant Dan, de dire et d'exprimer « Je compte sur toi, Éternel, pour accorder ta délivrance. » Vous pourrez voir le côté serpent comme positif en disant « Waouh, c'est celui qui, comme Jésus l'a dit, soyez comme des serpents, évitant les pièges. » Mais le mot « juger » et le mot « serpent », c'est lourd quand même à porter. Vous savez, c'est aussi ce moment où c'est des personnes qui ont l'art et la manière de présenter une image de soi et de faire le contraire par-dessous pour avoir ce qu'ils veulent. De pouvoir exprimer sa vision de la chose comme étant positif pour tout le monde, mais par derrière, couper les jarrets de la personne. Et je suis en train de me dire, peut-être que ce genre de personne, c'est peut-être pas forcément nécessaire au ciel. On l'a vu ce matin, ça fait partie des choses qui se passent dans notre monde. Jésus a été victime de ce genre de choses. Jésus a été victime d'un Judas qui a dit « Seigneur, je suis avec toi » et qui par derrière est allé voir les pharisiens et les sadducéens pour essayer de vendre des informations. Il était dans de bonnes intentions, parce que je ne comprends pas pourquoi Jésus ne réagit pas, je vais l'aider à réagir, je vais le faire arrêter, on peut imaginer des tas de choses, les gens qui s'imaginent un tas de scénarios pour avancer. Ces serpents qui arrivent petit à petit partout et qui donnent des images. Et ce genre de situation, on le trouve partout. Vous savez, nous sommes dans les pays occidentaux, nous n'avons jamais vécu aussi bien. Je fais partie d'une génération, et nous sommes une grande partie ici présents, une génération qui n'a jamais connu la guerre ici. Nous en avons toujours entendu parler. Et quand j'entends mon grand-père, je me dis... Merci Seigneur. Nous avons des problèmes pour nos retraités parce qu'ils vieillissent longtemps. C'est extraordinaire. Mais ça, c'était pas prévu il y a 50 ans. On vit bien. Mais qu'est-ce qu'on peut s'envoyer comme truc à la figure? On n'a jamais était aussi désinformé qu'aujourd'hui, à l'heure de la communication. Le summum du summum, et là je prendrai une image sociale, très sociale, La semaine dernière, les manifestations, ceux qui ont organisé les manifestations, 1 200 000, la police, 250 000. Waouh, ça fait un sacré. Une différence quand même, hein? Qui a raison? Qui est celui, on va croire? Qui est celui qui dit la bonne chose? Qui est celui qui donne l'image d'un côté et qui va passer par derrière autrement? L'un ou l'autre? Les deux peut-être? Puisque maintenant nous sommes dans un monde où il faut exagérer. Si on veut avoir l'attention, si on veut entendre ce que l'on veut dire, il faut exagérer. Mais où est la vérité là-dedans? Où est la justice de la vérité? Je présente la parole de Dieu en exagérant ou en donnant la vérité? En extrapolant des tas de choses ou en donnant la vérité telle que je peux la connaître, là, maintenant, aujourd'hui, avec les éléments que j'ai? Dans les couples, combien de fois, à un moment donné, au bout de quelques années de mariage, j'ai vu comment il était en fin de compte. Bonne image devant. Et on passe par derrière pour dire du dénigrement. Vous savez, c'est ce petit côté où, petit côté perfide. Si vous voulez en venir là, reprenez Genèse chapitre 3 pour connaître l'image du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? La question fondamentale du serpent n'est pas de donner des éléments, mais de mettre le doute du vrai avec du faux. Combien de fois dans nos familles, nous dénigrons peut-être les uns et les autres entre nous? Quelle image ça va donner après pour les enfants? Oui, non, mais devant le père, non, ton père, il est très gentil. Et quand le père n'est pas là, ouais, non, mais de toute façon, c'est un grand... Ou vice-versa, hein. Je suis dans cet sens-là, mais 50-50 dans ce domaine. Chacun a sa responsabilité. Ou combien de fois... dans nos familles, nous donnons une image parfaite, mais ô combien nous dénigrons le reste de la famille, notre entourage, l'Église. Combien de fois je rentre à la maison pour avoir cette bonne image où on a passé un bon sabbat, un bon culte, un bon moment ensemble, et pendant tout le tour de la table, on fait le tour des membres, ou le tour du culte, ou de la prédication. Envoyez-moi un mail pour savoir, hein, si vous, votre résumé, hein, d'accord? Pour savoir, ouais, ça c'était nul, ouais, non, mais de toute façon, vu qui c'est, ça ne m'étonne pas, non, mais... Après, quand il va falloir se présenter en disant, la vérité c'est ça. Ok, c'est ça par rapport à toi. Mais quand j'entends ce que tu as dit par ailleurs, est-ce que je peux avoir confiance en toi? Et j'ai l'impression qu'en lisant Dan, en lisant le serpent que je vois dans Genèse chapitre 3, on a un peu cette notion-là, cette raison-là. Et j'imagine Jacob qui a dû... Comment voulez-vous... Voyant ce que ça va donner, il n'a pas pu s'écrier à Dieu, « Seigneur, viens à notre secours. » Ça marche aussi pour notre société, beaucoup plus encore pour notre société. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu autant de styles, de tout du contraire, des idées qui fusent, etc., etc. On n'a pas encore compté le nombre de théories du complot, mais vous en avez pour tout. Alors d'abord, le complot, c'est pas nouveau. La preuve, on en a encore reparlé ce matin avec Jésus. Et le complot, ce petit côté où on peut
déblatérer des tas de choses sur les gens, sur les situations. Bien sûr que le monde est mauvais. Bien sûr qu'il faut y faire attention. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont pas fréquentables. Mais est-ce que moi, ça va me faire avancer dans ma foi pour avoir un appui sur ce qu'est véritablement la vérité? Au travers de cet apocalypse, j'ai l'impression profonde que le plus dangereux, ce n'est pas ceux qui ne respectent pas le sabbat, ce n'est pas ceux qui volent, ce n'est pas ceux qui sont adultères, c'est ceux qui, comme le serpent, une fois à un moment donné de leur vie, ont mis le doute dans la tête de quelqu'un. Et ça, Dieu ne peut pas accepter d'âne. Le texte qui nous a été lu ici, tout à l'heure, nous rappelle un peu cet élément-là. Jacques, vous savez, il a visiblement été sensible. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, cette problématique-là, puisque Jacques, ça date quand même. Hein. Jacques, chapitre 3, le texte qui nous a été lu, « La sagesse qui vient d'en haut » est le titre que l'on peut voir d'ailleurs. « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite » C'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ici, Jacques place la sagesse comme étant importante. Capital, nécessaire. Demandons à Dieu cette sagesse. On en a besoin. La sagesse qu'il présente ici ne suffit pas. Montrez-moi comment vous vivez, je vous dirai comment vous êtes vraiment. Je traduis, hein, pas moi qui le souhaite. Mais c'est la traduction de Jacques. Et Jacques, ici, dans ce texte, nous rappelle ô combien c'est important d'être correct. Et ça s'adresse à tout le monde, les anciens comme les plus jeunes, les amis, les jeunes. Deux choses auxquelles vous devez faire attention. Un, Internet est devenu le lieu par excellence de tout abus, divergence d'opinion, idées fausses. Ne prenez pas tout ce qui est écrit comme argent comptant. Vérifiez les choses. Allez à la source ou ne prenez pas le texte. Mais vivez dans le respect de la parole de Dieu. Deuxième chose, entre vous, filles et garçons, respectez-vous. Vous avez un avenir à construire. Vous avez un projet de vie à construire. Ne le construisez pas sur déjà le piédestal de la tromperie. Quand vous dites quelque chose à l'un, pensez-le vraiment. Nous sommes à l'ère du SMS, le petit message qui part tout de suite. Nous répondons tout de suite. Nous envoyons le texte tout de suite de ma réponse. On réfléchit après. Mais parfois, quand il arrive dans les yeux, y compris dans le cerveau, il est trop tard. Quand vous engagez, engagez-vous avec le respect l'un envers l'autre. Et puis j'aimerais terminer par la suite, d'Apocalypse 7. Par la suite d'Apocalypse 7 qui nous sort de ces 12 000, les 12 tribus, qui nous sort de ces 144 000, où on pourrait croire que c'est vraiment restrictif. Et depuis que le monde est monde, Ben, je ne dois pas en être. Mais il y a ici un symbole très fort des 144 000. Par contre, la suite, verset 9, doit nous remplir de joie et d'espérance. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'est des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Mes amis, notre salut est entre les mains de Dieu. Restons en contact avec lui, par son esprit. Soyons toujours empreints d'attention envers lui. Et que nous puissions tous ensemble vivre dans le respect, avec des paroles sages, saines, promptes à encourager, à apporter l'amour. Pour que, dans notre vie, nous puissions être l'exemple de l'amour de Dieu. Amen. Thank you.